Les épisodes de T'es pas un vrai fan podcast sont d'abord filmés pour YouTube,
puis ensuite transformés en audio seulement. C'est quoi un vrai fan? Selon JP, il faut connaître beaucoup plus qu'un seul single. Mais selon moi, je pense qu'un refrain ou type de chanson, c'est assez. Une chose est certaine, vous entendrez deux passionnés de musique déblatérer leurs connaissances. Est-ce qu'on connaît ton band préféré plus que toi? Je pense que oui.
Bienvenue à T'es pas un vrai fan, JP toujours en compagnie de Julian. Je me rappelle, ça m'avait vraiment piqué un jour, tu m'avais dit que être fan d'un band, il y avait des gens qui pouvaient être fans sans même connaître le titre d'une seule chanson.
J'ai peut-être un peu exagéré, je pense que... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils connaissent ce band-là, puis là tu leur donnes des titres, ils sont comme « Ah, je sais pas... » Mais ils sont comme « J'aime vraiment ce band-là. »
Je suis vraiment pas bon dans les titres, ouais, c'est ça, t'entends souvent ça.
Mais c'est ça, je pense que c'est difficile de tracer la ligne de qui est un vrai fan ou pas.
Puis on n'a jamais voulu avoir la prétention de savoir est où cette ligne-là, malgré qu'on pense qu'on connaît beaucoup de choses sur les bands qu'on apprécie.
La prétention qu'on a, c'est qu'on connaît énormément sur les bands qu'on apprécie.
Puis ça nous fait plaisir d'en parler pour partager ça avec vous. Comme aujourd'hui, on avait hâte de faire l'épisode d'aujourd'hui,
vraiment
ouais. Parce qu'on a changé un peu notre méthode de travailler. Avant, on se consultait beaucoup sur les sujets qu'on avait parlé, mais maintenant, on s'est rendu compte que se surprendre, c'est aussi amusant. Puis même pour vous qui nous écoutez, de voir qu'on ne sait pas ce que l'autre va nous annoncer. Et aujourd'hui,
excuse-moi, mais c'est beaucoup de feedback qu'on a eu de notre audience, si petite soit-elle pour l'instant, ouais.
Puis on apprécie beaucoup tous les commentaires, ouais. Parce qu'on essaie de donner du contenu qui est intéressant, autant le contenu, mais aussi à l'oreille, que ce soit intéressant pour vous.
C'est vrai, parce que j'ai envie de dire que pour l'instant, on a beaucoup de commentaires en privé, mais j'ai l'impression que ça fait un peu comme dire « J'ai une blonde, t'en connais pas à votre à notre école », genre c'est comme si c'est pas vrai. On a beaucoup de commentaires en privé pour l'instant, puis vraiment c'est ça, les feedbacks, on les apprécie, merci beaucoup. Encore une fois. Et oui, cet épisode-là, on avait vraiment hâte parce qu'on a changé un peu notre méthode là, dans le dernier épisode, vous avez vu. Et
parlant de feedback, peut-être qu'on va aussi aller choquer certaines personnes parce qu'on veut parler aujourd'hui des One Hit Wonder.
Oui.
Puis ça, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, One Hit Wonder, et ça, du coup, c'est pour te faire plaisir, la version française du terme.
Oui,
One Hit Wonder.
Et ça, c'est vrai, t'es tout le temps en anglais, puis là, je suis content que t'as fait l'effort.
C'est succès sans lendemain.
C'est vraiment plus beau, et One Hit Wonder. One Hit Wonder.
Donc, qu'est-ce qu'un One Hit Wonder? Ce serait une personne ou un groupe qui, grâce à une chanson ou à un morceau d'art, là.
Succès sans lendemain, ça ressemble à quand t'as eu une belle soirée avec une fille, mais finalement, tu sors pas avec.
C'était parfait. Donc, c'est une personne ou un groupe qui, grâce à une chanson, va atteindre un succès sans lendemain.
Oui.
Non, un succès qui ne seront pas capables de topper par après.
Mm. Qu'on va parler d'eux, mais pas longtemps.
Non, mais pas nécessairement pas longtemps. Non, c'est que c'est plus que ça va résonner que peu importe ce qu'ils vont faire après, c'est juste vraiment cette chanson-là qu'on va connaître d'eux.
Oui, c'est eux qui avaient fait cette chanson-là, puis on connaît pas rien d'autre.
Mais c'est très nuancé parce que, tu vois, mettons, un One Hit Wonder connu des États-Unis, mais c'est Oasis avec Wonderwall. Par contre, Oasis, c'est un band au UK qui fracasse tout, qui eux-mêmes ont déjà dit, moi je les aime pas, là, mais j'aime pas les personnes en fait, là, le band est correct, mais qui ont déjà dit qu'ils étaient aussi gros que les Beatles. C'est vrai qu'au UK, ils sont très très gros. Et tu vois, dans le fond, Oasis, ils ont Don't Look Back in Anger, ils ont Champagne Supernova, ils ont plusieurs autres chansons là, que je suis pas capable de numérer tout de suite. Mais aux States, ben, en Amérique, avec le Canada, Wonderwall, c'est la toune. Qui sont pas capables de topper. Il y a personne qui va dire ah ouais, moi j'aime vraiment cette tu sais comme c'est vraiment Wonderwall qui est le
ben puis ça c'est l'exemple parfait. Quand on parle de Oasis ici, je te dirais que 80% des gens vont dire ah, c'est eux qui ont fait Wonderwall. Puis après ça le catalogue est pas super connu.
Moins connu, exactement.
Tu sais, on est des fans, on n'est pas juste des fans de musique, on est des fans de cinéma aussi. Et moi, si j'avais pas écouté le film L'effet papillon, qui a la toune Stop Crying Your Heart Out.
Oui.
Que c'est une tune que j'adore, je connaîtrais juste Wonderwall de Oasis. Puis c'est ça l'exemple qu'on va faire aujourd'hui. Des bands qui ont connu une chanson qui est très connue, mais qu'on s'est penché un peu sur ces bands-là pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre à écouter.
Moi, dans la liste qu'on a préparée aujourd'hui, qu'on ne s'est pas consulté, donc on va sûrement avoir des titres similaires. Mais
j'ai hâte de voir si on a des bands communs.
Sûrement. Dans la liste qu'on a contactée, il y a des bands avec lesquels je ne suis pas d'accord que c'est des One Hit Wonder. Il y en a d'autres que je comprends un peu. Donc, exemple Oasis, ça a été vraiment un bel exemple dans le sens que pour vrai, c'est pas vraiment un One Hit Wonder, mais je comprends que Wonderwall n'ont jamais été capables de topper ça en termes de popularité. C'est parce que cette chanson-là, tu sais.
J'aime que tu dises que t'es pas d'accord que c'est des One Hit Wonder parce qu'on parlait des feedbacks tantôt.
Ouais.
Puis j'aimerais ça. Peut-être que vous allez être d'accord avec nous. J'aime ça quand vous êtes d'accord avec nous, mais j'aime ça aussi quand vous me confrontez sur certaines choses. Si jamais pour vous, vous êtes pas d'accord d'un groupe qu'on a nommé qui était un One Hit Wonder, ben venez nous le dire, parce que les One Hit Wonder qu'on va nommer aujourd'hui, moi personnellement, c'est des bands que j'ai continué à m'y intéresser et qui ont d'autres chansons qui sont bonnes.
Ben oui.
Donc si vous avez des chansons, des bands qu'on parle, que vous trouvez bonnes, et que vous vous dites, ben c'est pas un One Hit Wonder, il y a telle autre chanson, ben on aimerait ça avoir des feedbacks
puis,
sur ça.
Puis il y a des bands qu'on va survoler, moi en tout cas il y a des bands que je vais survoler juste pour le mentionner, mais honnêtement,
Est-ce que tu vas te limiter?
Oui, je serais vraiment, pour des reviews l'album, non, c'est pas vrai. je serais vraiment content d'entendre, de découvrir d'autres tunes de ces bands-là. Moi j'ai pas fait les recherches, mais peut-être que quelqu'un pourrait me faire découvrir quelque chose, donc les feedbacks c'est important. Peut-être juste terminer sur le One Hit Wonder, ce qui est vraiment drôle, c'est que ça arrive vraiment à plusieurs moments dans leur carrière. Donc, autant que des fois, c'est début de leur carrière, il y a des bands que j'ai vus, c'était genre à leur 10e album quasiment, tu sais, c'est super intéressant. Je les ai pas notés là, parce que ça devenait un peu trop long comme recherche, mais c'était intéressant. Là. Si on commençait en ordre, ok, donc on parle des années 1700, on a la chanson Patch Bells Cannon ou Cannon ND P-37 qui est de Johann Patch Bell dans les années... C'est sûr que tu connais cette chanson-là.
Bon, 1700.
C'est un mauvais gag. On va pas commencer vraiment dans ces années-là. On va vraiment... C'est juste...
C'est vrai que c'est un mauvais gag.
Je vais désolé le plugger, mais on va peut-être l'enlever au montage. C'était juste pour faire peur parce que je disais que j'allais me limiter, puis je commençais super loin. Mais c'est vraiment, ça serait vraiment pour vrai un vrai One Hit Wonder parce que c'est une tune classique qui est
Le monde avait-tu des oreilles dans ce temps-là?
Oui.
Ok.
Mais c'est une tune, c'est sûr que je t'en fais écouter tantôt, c'est sûr que tu sais quoi. Okay. Mais il n'y a jamais eu de. C'est pas un, c'est aussi gros que Beethoven puis Mozart, mais il a juste fait une tune sur laquelle il est connu. Cette conversation-là. Mais sans blague, dans le fond, on voulait se limiter surtout dans les années 2000, mais début 2000, là, entre 2000 et 2010. Et qui sait, peut-être on aura du stock pour un autre épisode sur les One Hit Wonder. Es-tu prêt à commencer, mon beau GP?
Ben, je trouve ça très drôle que tu parles des années 1700, parce que si vous connaissez le jeu Hitster, je m'étais tout le temps posé la question en jouant à ce jeu-là. La toute la plus vieille, ce jeu-là, c'est en quelle année? Moi, j'avais obtenu l'année 1928.
Ouais, je pense que c'est dans le plus vieux.
Les plus vieux, ouais. Mais j'ai quand même été surpris que moi, je m'attendais à la des années 50, j'avais vu 40, mais quand j'ai vu la carte de 1928, j'étais comme, OK.
Il y avait de la musique dans ce temps-là.
Non, mais c'est pas qu'il n'y avait pas de la musique, mais ils sont allés loin dans leur recherche, c'est plus ça que je voulais dire.
Mais c'est...
Jeu excellent, si vous connaissez pas ça, Hitster joue à ça.
Ouais, je pense que tout le monde a rendu qu'un tour joue à ça maintenant.
Ouais, exact.
Mais c'est très bon jeu, effectivement. Donc, on commence ça, début des années 2000, GP. Le classique Teenage Dirtbag de Wheatus. Tu connais cette chanson-là, j'imagine?
J'en ai déjà. Le nom me dit quelque chose, probablement parce que justement c'est un hit, mais je me rappelle pas c'est quoi.
C'est comme un gars qui chante un peu le côté de la fille, puis un peu le côté du gars, puis c'est drôle parce que récemment, dans son nouveau band, dans son re-line-up de band, il y a une fille. Il fait quand même le côté fille parce qu'il chante vraiment aigu. Là.
Ce que je trouve drôle, c'est que probablement que les chansons qu'on peut nommer, mais que les artistes nous disent rien,
ouais.
Pour les gens qui nous écoutent, vont probablement entendre ces chansons et dire « Ben oui, je connais ça, j'ai déjà entendu ça », mais ça a tellement été « One Hit Wonder » qu'on sait même pas c'est qui chante.
Ben, ça va être ça pour une grande majorité.
Exact.
D'ailleurs, l'importance de notre playlist, qu'on va faire encore une fois, qui va être dans la description de notre vidéo, qui va être sur Apple Music et Spotify, et on va les mettre ces chansons-là, ceux qui se trouvent, là, des fois il y en a qui se trouvent pas, mais on va toutes les mettre le plus possible, donc vous allez pouvoir, on va les mettre dans l'ordre qu'on les a nommés, donc vous allez pouvoir revivre un peu notre épisode de par la nostalgie. D'ailleurs, si je peux conseiller quelque chose par rapport à cette chanson-là, Vice a fait un très bon documentaire qui s'appelle Story Behind, ils ont fait ça pour plusieurs chansons comme Who Let the Dogs Out, et aussi Papa Roach Last Resort. C'est un documentaire, c'est 8 épisodes ou 9 épisodes, puis il passe vraiment en entrevue chaque chanteur de ce band-là, comment que la chanson est devenue un hit, etc. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant.
Quand tu parles du band, il y avait un gars qui chantait puis une fille?
Non, dans le band Wheatus, c'est juste un gars, sauf qu'il chante la version de la fille et du gars en même temps.
Okay.
C'est comme s'écouter Evanescence Bring Me To Life, qui est loin d'être un One Hit Wonder, par exemple, on va se le dire.
Ouais.
C'est quand même un peu si tu les écoutais, puis que c'était juste dans Bring Me to Life, c'est juste dans le fond comme Amy Winehouse, Amy Lee qui chanterait la version du gars aussi. Okay. Mais là, c'est le même principe, c'est un gars qui chante vraiment le gars et la fille. Il y a une voix vraiment aiguë, mais ça fracassé le début de l'année 2000. Là.
Ouais.
Un band qui aurait pu se retrouver dans la liste, mais je l'ai laissé un peu Disturbed avec Down with the Sickness.
Qui est la tune la plus connue de ce band-là?
Je pense que leur cover de Sound of Silence de Simon & Garfunkel, qui eux, ils ont fait en 2015, pas Simon, eux, sur ces dernières années 70, mais je pense vraiment que Sound of Silence a eu plus de radio play que Down with the Sickness, donc je pense qu'ils sont battus, mais comme c'est en 2015, je pense que Disturbed restait quand même dans les débuts des années 2000, un Ben de One Hit Wonder. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looked so sad in photographs, I absolutely love her. Un Ben qui s'appelle Nine Days. Et ça, moi, j'ai une petite histoire avec ce Ben. Okay? La chanson, c'est Absolutely Story of a Girl. À chaque fois, j'ai envie de les chanter, mais je vais me retenir pour le bien de notre audience. Là, et si quelqu'un se souvient de ça, s'il vous plaît, mais nous écrire, parce que à chaque fois que je raconte cette anecdote-là, le monde n'a aucune idée de quoi je parle. Je passais les fins de semaine chez mes grands-parents, puis ma grand-mère, quand elle venait me chercher, on allait au IGA, au supermarché, et il y avait une grosse bouteille de bière géante, gonflable, avec une radio à l'intérieur. Un peu comme la station HMV où tu pouvais, et Archambault, où tu pouvais comme écouter ta musique. Là.
À l'épicerie?
À l'épicerie. Et là, t'allais là et t'écoutais des chansons. Et ça, c'est... On est dans les années early 2000, là. Donc, c'est très, très, très difficile de savoir après qu'est-ce que t'écoutes, puis c'était pas écrit qu'est-ce que t'écoutais, ou peut-être que c'était, mais je le voyais pas. Et ça, c'est une tune qui m'a vraiment marqué. Donc, Nine Days, Absolutely, Story of a Girl. Et si vous l'écoutez, je suis sûr que vous allez la reconnaître, là. Et pendant longtemps, je savais que le nom... Tu sais, à chaque fois que je voyais un peu le nom du... Ah oui, je voyais le nom, mais j'essaie de m'en rappeler plus tard chez moi. Quand c'était plus là. Et j'ai découvert Green Day grâce à ça, parce que tu sais, Green Day, Nine Days. Je sais pas pourquoi, j'ai découvert Red Hot Chili Pepper, probablement à cause de Green Day, tu sais, l'espèce de connotation green et red, là. Mais ça en fait découvrir plein d'autres bands par après. Mais honnêtement, il y a personne qui se souvient des
Ben, moi, je pense que le début des années 2000, c'était le pic de l'humanité, parce que tu m'apprends qu'il y avait ça en plus. Il me semble aussi qu'il y avait des Nintendo 64 dans les McDo.
Oui.
Moi, je comprends pas comment on a pu régresser autant.
Non, effectivement. Mais en même temps, tu parles de régresser, il devait avoir beaucoup de graisse, donc régresser.
Surtout les enfants qui vont jouer après avoir mangé.
Oui, je trouve que c'était la graisse sur les manettes, en fait. J'ai pas...
Aïe, si en plus, il y avait de la musique dans les IGA, je comprends pas.
Mais c'était insane. Puis moi, ça faisait que ma grand-mère faisait son épicerie, puis elle m'achetait... des céréales sucrées. Puis pendant ce temps-là, moi, je faisais juste écouter avec des bons écouteurs en plus. Là. Je vais faire mes recherches pour peut-être trouver des photos si jamais je peux et les mettre en display. Why you always kick me when I'm high? Knock me down till we see eye to eye. Ben SR71. Donc, le Ben ne dit rien à personne, mais la chanson Right Now. Et ça, la chanson Right Now, c'est une chanson qui a été connue beaucoup. Un, elle a été associée beaucoup à Sum 41 parce que c'est dans les mêmes années. Et ça a été dans Dude, Where's My Car, Harold et Kumar, le premier, Old School. Et ça, une autre chanson que...
Harold et Kumar, est-ce que ça jouait dans la voiture des imposteurs?
Ah, je me souviens pas, par exemple. Dans
les imposteurs, ils écoutaient du beau dance. C'était Eclipse, Total Eclipse of the Heart. Oh. Ouais, fait que je sais pas si c'était sur leur compilation extrême!
Ah, peut-être, je sais.
Mais j'écoute en français, moi. Ça, c'est un film que j'ai été habitué d'écouter en français. Et là,
c'est
un passage des imposteurs, moi, ça m'a tué. C'était tellement drôle.
Non, mais.
Le principe des badass, puis écouter ce genre de musique-là.
Non, mais en même temps, t'es badass quand t'écoutes Total Eclipse of the Heart.
Moi, j'aime ça, mais eux, ils projetaient autre chose. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby.
Crazy Town qui avait sorti Butterfly, ça aussi, ça c'est tout le monde s'en souvient, c'est très connu. Et quelque chose que j'ai appris dans mes recherches, normalement je suis assez bon dans tout ce qui est sampling, mais je savais pas le petit bout de guitare, je m'étais promis de pas le faire.
J'aimerais ça que tu respectes tes promesses.
C'est un sample de la chanson Pretty Little Diddy de Red Hot Chili Pepper. Donc, c'est très intéressant, je ne savais pas. Et juste pour revenir sur Crazy Town, le band, dans le band, à ce moment-là, il y avait DJ AM, qui est le meilleur ami de Travis Barker, qu'on a parlé dans notre épisode de Blink, où on est tout, là, qui est décédé après l'accident d'avion. 2001!
2001, ça a été une grosse année, autant pour notre génération, côté film et côté musique, parce que, on en a, ben c'est drôle, tu parles de l'épisode de Blink, parce qu'on a parlé d'American Pie dans l'épisode de Blink, parce que Blink avait fait une apparition dans le film. Her boyfriend, he don't know anything about her, he's too stoned. Nintendo, I wish that I could make her see. Le groupe American Hi-Fi avait eu une présence importante dans la trilogie. Surtout, ben, il n'était pas présent dans le premier film, mais dans le deuxième film, il y a beaucoup de chansons sur Big Shiny Toon 6 qui se retrouvent sur la trame sonore d'American Pie 2 et on retrouve le méga hit Flavor of the Week. Puis pendant longtemps, je pensais que Flavor of the Week, c'était la saveur de la semaine, mais vraiment écrit le mot semaine. Mais quand j'ai remarqué, OK... Parce que longtemps, j'ai pensé que c'était week, semaine, mais c'est week, faible.
Ouais.
Et Flavor of the Week, tout le monde, ben, la majorité des gens vont reconnaître cette chanson-là dès qu'ils vont entendre les premières notes. American Hi-Fi avait été aussi, il avait sorti un deuxième album parce que cette chanson-là se retrouvait sur l'album éponyme de 2001. Ça s'est retrouvé dans American Wedding, donc le troisième American Pie. Quand Stifler sort de l'autobus, la chanson The Art of Losing, qui était aussi le titre de leur deuxième album en 2003, quand je parlais, l'épisode est aussi fait. Moi, j'ai eu peut-être une approche un peu différente de comment te préparer ton épisode. Moi, je suis allé avec des groupes qu'on connaissait une chanson, mais pour vous parler un peu du matériel qu'ils ont fait après, parce que je considère qu'ils ont fait du matériel qui mérite la peine d'aller jeter au moins un coup d'œil. Le deuxième album, The Art of Losing, que la toune thème qui est excellente. L'album de 2005 qu'ils ont sorti, qui est moins connu, qui s'appelle Hearts on Parade, qui a une allure un peu plus pop, mais qui
c'est l'album que j'ai acheté.
Qui était le seul vinyle disponible au Noise, ce qu'on remercie, qui nous ont permis d'écouter le nouvel album de Linkin Park en avant-première.
Oui.
Mais Hearts on Parade, qui avait divisé les fans parce qu'il y avait des allures beaucoup plus pop que pop-punk, qui était l'allure de leur premier album. Personnellement, leur premier album, oui, c'est mon préféré, entre autres à cause de Flavor of the Week. Mais cet album-là est très solide du début à la fin, je vous le conseille fortement. Et Hearts on Parade, au moins, allez jeter un petit coup d'œil. American Hi-Fi, par contre, qui n'ont rien sorti depuis au-dessus de 10 ans, dernier album qui date de 2014.
Puis c'était ça un peu le but de l'épisode. Au début, c'était de faire des recherches. Puis tu connais, ben de faire ça un peu, avec ce band-là, ils continuent à faire la musique. Moi, je me suis un peu, je me suis un peu éparpillé. Donc, j'ai fait une petite liste. Puis en même temps, il y avait des chansons que je voulais parler vite parce que ça nous permet de les mettre dans le playlist, ça nous permet de
sortir. Et en plus, ça peut interpeller des gens que eux connaissent
exact.
Les bandes que tu nommes, qui pourraient nous envoyer des choix, peut-être même pour bonifier notre propre playlist à nous.
Mais dans la même veine que toi, par exemple, en 2001, il y a eu le succès qui a tout fracassé. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Smooth Criminal de Alien and Farm, qui est aussi un cover de Michael Jackson. Et ça a joué partout et c'était...
Qui joue dans American Pie 2, quand Jim a la cassette de porn collée sur sa main.
Ouais.
Moi qui m'a fait connaître cette chanson-là. Et au départ, tu fais de Michael Jackson. Et quand j'ai vu que c'était Alien and Farm, je me suis questionné c'était quoi ce groupe-là parce que je ne le connaissais pas du tout.
Et moi, funny enough, tu vois, j'ai fréquenté une fille dans ces années-là qui, elle, c'était son band préféré. Et ça m'a vraiment permis d'écouter ce band-là. Donc, vite.
C'est cool ça, que quelqu'un aime un band te le fasse connaître.
Oui. Puis, fait que moi, ça n'a jamais été un one-hit wonder dans ma tête.
Mm.
Des affaires intéressantes sur ce band-là, j'ai trouvé que ça cool. Leur premier album s'appelle Greatest Hits.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même
dingue. Ouais, j'avais remarqué ça, puis je comprenais pas si c'était une compilation
ou non. Mais même moi, j'avais skippé cet album-là. Honnêtement, j'avais jamais vraiment écouté.
Qui est une bonne idée quand tu penses
à deux albums. Ben oui, idée qui est leur premier album.
Ouais.
Et funny enough, dans cet album-là, il y avait la première version de Smooth Criminal qui s'appelait à ce moment Slick Teeth. Et là, bon, ils l'ont changé pour Smooth. Ils ont gardé le titre original, mais de la chanson de Michael Jackson. Mais au début, c'était comme un peu. Puis ils voulaient pas la remettre dans leur album, leur plus gros album, vraiment, qui a été Anthology. D'ailleurs, eux font beaucoup de jeux mots avec
Ant. Ouais.
Donc, des fois, on va avoir l'air de mal prononcer le nom de l'album, mais c'est comme Anthology. Donc, d'autres chansons que je vais proposer aux gens, Movies, These Days. Et dernièrement, eux, en 2024, ils ont sorti un album que j'ai pas eu la chance d'écouter au complet. Mais
le 2024, Alien Hellfire.
Oui, okay, oui, oui. Et le lead single est excellent, Last Dance. Donc, un jeu de mots avec Ends encore. Et d'autres, il y a d'autres tunes dans cet album qui valent la peine. Parce que je n'ai pas écouté au problème, mais j'ai écouté comme quelques singles. L'album s'appelle Mantras. Donc, Mantras avec un Ent écrit en plus gros. Là, okay. Vous allez comprendre en voir le titre. Donc, c'est pas mal ça pour
moi. Ils doivent se trouver bien hot comme le jeu Forever d'Avenged Sevenfold. Oui, exactement. Je me dis ça vraiment cool exact. De faire ça.
Moi, j'en ai d'autres en 2001, mais...
Ben moi, je te laisse aller parce que moi, le prochain, ça va être dans ma grosse année. Okay. J'ai une collection d'albums chez nous et j'ai une année en particulier que j'ai hâte de vous parler. Que ça a été une grosse année dans le pop-punk, mais je vais te laisser...
2005?
Non, avant ça.
C'est un petit jab à Edster.
Oui. Let the body sit the throat, let the body sit the throat,
let the body sit the throat. Drowning Pool, qui avait sorti Bodies. Et moi, Bodies, je les ai découverts.
Quelle chanson! Ah, oui.
Mais Bodies, puis Dawn of the Sickness avec Disturbed, c'est souvent des chansons que je découvrais avec des vidéoclips. Tu sais, dans le temps, c'était très populaire sur YouTube. Ils prenaient des vidéoclips d'animé, dans ce temps-là, c'était beaucoup Dragon Ball, et ils mettaient ces chansons-là.
Ben, qui représentent beaucoup la force, la puissance, la domination. Fait que je peux comprendre que Dragon Ball...
Bodies, d'un mort...
On est des très grands fans de Dragon Ball en passant.
Oui, effectivement. Ouais. Mais Bodies, je pense que c'est une vidéo avec Vegeta qui cassait des gueules, que tu voyais des bodies tomber. Et Drowning Pools, eux, finalement, ils ont changé vraiment beaucoup de chanteurs. Mais un autre hit qu'ils ont eu, que moi j'ai écouté longtemps, c'était Step Up, qui était aussi dans le film The Punisher de la version de 2004, parce qu'il y a eu comme plein de versions. Là.
OK. Can you take it all away? Can you take it all away? When you
shove it in my face, explain again to me. Pull of Mud avec Jurassic Blurry.
Ouais. Je me rappelle de l'annonce du film avec Vin Diesel, The Man Apart.
Ouais.
Ouais, puis que c'est la chanson thème de ce. Ouais.
Ben, tu vois, eux, ont deux autres tunes que je suggère, que moi j'avais appris à aimer, c'était She Hates Me, du même album, puis Control, qui est un autre album par après. Encore là, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous donner plus de titres.
Il me semble que Puddle of Mud aussi avait une chanson sur la trame sonore d'American Pie 2, si je me trompe pas, mais il faudrait que j'aille vérifier. À moins que je mélange avec Bitch and Doom 6, je pense que c'est un peu malsain que je sente tout le temps mon attention sur ce Grease.
On va vraiment faire une intervention. je suis désolé que t'as rien d'autre encore parce que moi j'ai. It just takes some time. Jimmy Eat World avec The Metal.
Ouais, mais Jimmy Eat World, The Metal, c'est parce qu'ils ont sorti aussi l'album Futures après. J'avais pensé à Jimmy Eat World.
Moi, je les ai découverts avec cet album-là.
Ben oui, mais tu les as découverts.
Non, Future. Moi, Pain, c'est... Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit...
Ben, c'est pour ça que j'ai de la misère. Moi, j'ai pensé à Jimmy Eat World. Ouais. Mais je sais très bien que The Metal est la tune la plus connue de Jimmy Eat World. Mais ils ont eu aussi Hear You Me. Qui était là.
Sweetness aussi. Là,
mais c'est ça. Fait que j'ai. Mais moi, j'ai décidé de pas les mettre là-dedans. Mais
effectivement... en même temps, c'est ça le but de la liste. T'as comme failed the homework.
Ben, pas vraiment. Parce que ils ont pas juste un hit comme Jimmy Eat World.
Non, mais ils sont considérés comme un One Hit Wonder. C'est ça qui est intéressant. Moi aussi, je suis pas d'accord.
Tu vois, je suis pas d'accord.
Moi non plus, je suis pas d'accord. Premièrement, moi, la tune que j'ai découvert, c'est Pain. Et quelqu'un m'avait glissé ça dans mon MSN. Back in the days.
Ouais.
Et j'ai adoré cette tune-là.
Qui est très différente du reste de leur catalogue. Pain, qui rentre beaucoup plus dedans que la majorité de leurs chansons.
Ouais, mais vraiment bonne Pain. Ouais. Puis après ça, j'ai découvert, bon, The Metal et cet album-là au complet, j'ai oublié le titre là, en ce moment. Mais eux.
Tu connais pas Cinderella Story avec Chan Michael Murray et Hilary Duff?
Oui.
Il y a Hear You Me là-dedans. Moi, c'est pour ça que, écoute, cette émeute est tellement hot.
Ouais.
Que. Ouais.
Non. Mais juste.
Puis je voudrais juste plugger que j'aime pas ça qu'ils pensent que j'y ai pas pensé. T'as pas pensé à Jimmy et toi? Oui, j'y ai pensé, mais je suis pas un cave, puis je sais que c'est pas un One Hit Wonder.
Non, mais c'est ça, là. Ouais, t'as là, t'insultes des gens. Non, mais c'est considéré.
Non, mais j'avais l'impression que. Tu pensais que j'avais fait un
mais c'est juste qu'il y a aucun autre single qui a plus hit que The Metal. Fait que c'est pour ça que c'est conseillé. Mais j'aimerais dire que moi, le dernier album 2 que j'ai écouté, c'était en 2016 avec le lead single Sure and Certain. Mais après ça, leur dernier album que j'ai pas écouté est sorti en 2019. Donc ça peut être intéressant de savoir qu'ils font encore la musique. Mais Sure and Certain, c'est quand même bon, plus mollo. Mais en tout cas, shout out à Pain, qui est excellent.
Le point que je te rejoins, c'est que c'est vrai que les. les gens connaissent Jimmy Eat World vont sûrement connaître The Middle. Si vous avez deux albums à écouter, c'est sûr que Beat American et Future, c'est des albums
Future, qui sont très bien. Drugs or Me.
Non, d'un bout à l'autre. Ben moi, la tune 23 à la fin, c'est une de mes chansons préférées. Puis en show, j'ai...
J'ai mis dans ma playlist. Je me fais des pistes vraiment thématiques, puis j'ai une playlist avec des numéros. Fait que j'ai 23, 24, 25, 26, mais en tout cas.
Je suis pas surpris, t'as beaucoup de particularités.
Un jour, moi,
j'ai l'adresse unique.
J'aimerais ça convaincre JP, j'aimerais ça faire un épisode sur toutes mes playlists thématiques de mots. Mais bon, un jour.
Le pire, c'est que je prendrais sûrement plaisir.
Sûrement. Parce que t'as plaisir d'être en ma compagnie. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 2002 avec Plain White Tees et Hair There Delilah, qui est tellement un one hit wonder, sûrement parce que je connais aucune autre tune de White Tees.
De nom, je connais, mais je me rappelle pas c'est quoi cette chanson.
Ah, c'est sûr que.
Je te demanderai pas de m'affredonner.
Ouais, non.
Mais ça mettra dans la playlist.
Ouais, mais j'avoue que c'est une façon de pas se faire takedown, de fredonner les chansons. Mais si on les met, on voulait les mettre en simple ici, mais les vieux se feraient takedown probablement. Là. So here I am, it's in my... Donc, encore en 2002, The Used, Taste of Ink.
The Used, One It
Wonder. Je le sais, je le sais. Mais c'est dedans la liste. The Used, bon, ils ont I'm a Fake du même album qui était écœurant.
Tu sais, là, j'aimerais juste mentionner que tu viens de nommer I'm a Fake. Puis je sais très bien que les hits de The Used, le plus connu, ce ne sera pas celui-là. Fait que déjà, en parlant d'eux comme One It Wonder, tu nommes même pas un hit. Ce qui veut dire qu'ils ont plein
d'autres hits. Non, mais je connais ça en band. Oui, je suis d'accord, mais... Mais selon la liste que j'avais trouvée, The Used était là-dedans avec Taste of Ink. Mais ça, ils ont aussi All That I've Got. Puis moi, récemment...
Moi, c'est pour cette chanson-là que je l'aurais mis. Si j'avais à mettre The Used dans One in One 2, j'aurais mis All That I've Got, qui était sur Big Shiny Toons 10, si je me trompe pas, qui était une grosse... Non, mais là, je te parle quand même d'un autre Big Shiny Toons qui avait...
Qui a changé de... C'est bon.
Ouais, c'est ça.
De répertoire.
Qui était quand même une grosse année où est-ce que ce style de musique-là, le emo était très fort avec My Chemical Romance.
C'est là.
J'espère que t'as pas mis My Chemical Romance.
Non, j'ai pas mis, mais non, ils ont au moins deux hits.
Parce que là, Jimmy Eat World, like The Used, tu commences
à
me titiller.
Mais je voulais en profiter parce que moi, j'aime vraiment beaucoup récemment Obvious Blasé, qui est une chanson qu'ils ont faite avec Travis Barker dans leur album le plus récent, je pense. Puis moi, en tout cas, je voulais la nommer.
Obvious. On arrive à la grosse
2003,
année.
C'est année, ça?
2003, c'est l'année que je possède le plus d'albums. Je possède au-dessus de 20 albums de l'année 2003.
Mais bravo.
Qui a été... Non, je fais pas ça pour brag. Je fais juste mentionner que c'est une grosse année. C'est ça que je veux dire. Moi, je voulais aller avec 2003 parce que c'était vraiment une grosse année. Et je commence avec... I've been watching. Le groupe finlandais de Rasmus.
Oh ouais.
Qui avait sorti In the Shadows.
Ouais.
Quand on avait commencé à parler de cet épisode-là, j'ai failli passer à côté de ce band-là qui. Moi, si j'avais à mettre.
C'est un One Hit Wonder. Moi, c'est vraiment un One
Hit Wonder. Moi, là, si j'avais à mettre un exemple dans ma tête, c'est quoi un One Hit Wonder, c'est ce band-là de Rasmus qui ont vraiment fracassé tout en 2003. Cette chanson-là, ça les a fait venir en Amérique du Nord, chose qu'ils ne font plus maintenant. Je suis très déçu parce que c'est un de mes seuls bands préférés que j'ai jamais vu live. 2003, ils sortent In the Shadows, son album Dead Letters. C'était déjà leur cinquième album. C'est un band qui est actif depuis 80... Ben, ils se sont formés en 94, mais leur premier album date de 96. Et si tu t'intéresses à la discographie, très très funk au début, et ils se sont dirigés peu à peu vers le rock. Présentement, je dirais qu'ils rentrent peut-être plus dans le pop, mais il était plus... l'album Dead Letters est considéré comme un album rock qui est très très bon. L'album en tant que tel, au complet... Et bon, si jamais vous avez la chance d'écouter un seul album, c'est sûr que je vous conseille celui-là.
Puis on sortit une tune dernièrement, on l'avait écouté ensemble, je me souviens plus. On
avait... Oui, Rest in Pieces qui est sorti en 2024. Je dis 2022 parce qu'ils sont revenus dans l'actualité, parce que c'est mon actualité qui est peut-être pas celle de tout le monde. Mais en 2022, ils ont participé à une compétition de style Star Academy. C'est en Europe, Eurovision.
Ah oui, Eurovision, c'est connu.
Bon, ben tant mieux si c'est connu. Ça va élargir quand je parle de mon actualité. Et ils ont failli le remporter sur un final, mais ils n'ont pas gagné, c'est même moins bon, avec le hit Jezebel, qui marquait l'arrivée d'une femme dans le groupe, parce que le guitariste a quitté le groupe pour des raisons qui sont un peu obscures. J'avais vu une entrevue, mais il semblerait que le guitariste, d'après moi, il était juste plus capable de comme souvent ça arrive, là, de vivre une vie familiale en plus d'avoir un band. Mm-hmm. Et c'est une chanson qui est très bonne, Jezebel, parce que justement, ça parle un peu du fait... Tu sais, souvent, on peut considérer, là j'essaie de faire attention, je ne veux pas être sexiste, mais souvent, on peut associer l'appétit au niveau de la séduction pour les garçons. Mais cette chanson-là met en valeur que les femmes aussi peuvent être, ont le droit d'aller à la chasse, si on dit. Cette chanson-là parle beaucoup de ça. Et de l'arrivée d'une femme, ça marquait un changement dans le groupe. Donc, Jezebel en 2022, sont encore actifs, prévoient la sortie d'un album en 2025.
Intéressant.
Ouais, mais c'est ça, la chanson vient de sortir, Rest in Pieces. Je vais faire une parenthèse parce que je sais pas si t'as déjà, je veux juste faire un parallèle. Quand t'entends sacrer un adolescent, souvent, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'ils savent pas comment.
Ouais, ouais.
Et de Rasmus, des fois, ils veulent avoir l'air un petit peu plus méchants qu'ils sont en réalité. Je les compare, on dirait qu'ils voulaient sonner comme Bring Me the Horizon avec cette chanson-là. Donc, ils commencent à lancer des I don't give a fuck, des mots comme ça, qui fit pas du tout avec l'image de Rasmus. Moi, c'est un peu ça qui m'a dérangé sur la chanson, parce que l'intro de la chanson, c'était très bon. Mais en écoutant la chanson, on dirait qu'ils voulaient se prendre pour plus intense qu'ils sont vraiment, puis ça fit pas avec les Rasmus. Fait que j'ai hâte de voir le prochain album, qu'est-ce que ça va donner. Mais ils ont sorti beaucoup d'albums depuis l'album de 2003. Il y a Black Roses en 2008 que je conseille fortement, qui est très bon. Donc pour les Rasmus, ça ferait un peu le tour.
J'irai moi avec The Ataris.
J'ai pensé le nommer à la fin parce que je ne connaissais pas assez.
The Boys of Summer, Boys of Summer en fait.
Qui est un cover.
C'est un cover, crois. Oui, de Don Henley qui était un membre des Eagles.
Ouais.
Et ça, eux, vraiment, c'est un one-hit wonder parce que j'ai réécouté d'autres chansons d'eux. Puis j'en ai une ou deux de eux, mais ça punch vraiment pas assez. Mais c'est un excellent single que moi je trouve meilleur que l'original. Et c'est rare des singles qui sont meilleurs que l'original.
Mais Solange Astoria est très bonne chanson aussi sur l'album où on retrouve The Boys of Summer. Ben, 2003, je continue avec. Just Bastagne qui avait sorti.
Ah oui, j'avais fait. Moi, tu vois, The Reason, c'est en 2004 selon mes notes. On peut en parler parce que tu en avais parlé.
Ben, l'album The Reason, qui porte le nom de leur hit, selon mes recherches, était sorti en 2003.
Un single est probablement sorti en 2004. Parce que moi, j'allais rechercher single.
Ok.
Probablement, là. Vraiment, là,
ben,
là.
C'est possible. Mais j'étais pas certain parce qu'ils avaient été connus aussi avec leur premier album en 2001 avec Crawling in the Dark.
Crawling in the Dark, excellent, Crawling in the Dark.
J'adore cette chanson-là. Puis j'avais donné un essai à l'album au complet.
Ouais.
Et Oubastang, ce qui est dommage avec ce groupe-là, c'est que. On a parlé de The Used tantôt, que The Used est très bon pour parler de la souffrance, mais il arrive à le faire pour que ça vienne nous chercher émotivement. Ce que Oubastang souvent rate. Je sais pas si c'est à cause de leurs paroles. J'aurais trouvé que les paroles dans les chansons d'Oubastang sont très bonnes, mais ils ont vraiment l'air d'une gang de chialeux. Quand ils chantent, on dirait des chialeux. Et je me rappelle, la tune de Reason en est un exemple. Quand il dit « And the reason is you », que je sais pas, il y a
mais c'est Kéten, tu t'en connais. Elle est tellement...
Tu sais, quand je parle chialeux, j'avais le mot Kéten aussi en tête.
Avec Out of Control, je pense, qui est dedans, qui est vraiment... Moi, j'ai aimé aussi.
Ça, c'est... Oui, oui, Out of Control est sur cet album-là. Ben, en fait, on s'en était déjà parlé de cet album-là, et c'est pas The Reason qui est notre chanson préférée sur cet album-là. Moi, je considère que Same Direction, qui ouvre l'album, est la meilleure chanson de l'album, et Out of Control, qui est un de leurs plus gros hits aussi avec The Reason. Mais je conseille fortement l'album qu'ils ont fait après, qui s'appelle Every Man for Himself. Quand je parlais qu'il y avait des lyrics qui avaient l'air de chialer, dans l'album Every Man for Himself, au moins, ils ont retrouvé un certain catchiness avec des lyrics que j'ai jamais trouvé super forts, mais des tunes très, très accrocheuses, qui est pour moi le meilleur album de Oubastang, meilleur que l'album de Reason, Every Man for Himself. Et je conseillerais l'album aussi de 2012 qui s'appelle Fight or Flight. On dirait qu'ils mélangent leur musique avec un aspect grunge qui crée vraiment un nouveau genre avec des lyrics plus ou moins bonnes. mais qui viennent rechercher du catchiness.
Ouais.
Ce qui est très drôle, c'est que quand ils ont sorti l'album For Never en 2009, j'avais lu les critiques, et moi j'ai pas aimé cet album-là, et la critique disait « Oubastank a souvent été un groupe qu'on dirait qu'il recherchait de jouer à la radio. Ouais. » Et là, il avait praisé le fait qu'avec l'album For Never, on dirait qu'ils sont allés plus de manière personnelle pour créer quelque chose, pas juste pour jouer à la radio, mais ils sont allés d'un côté plus personnel, et la critique disait « Mais souvent, malheureusement pour nos oreilles. » qui ont souvent l'air de... Oui, ils vont chercher une autre direction, mais malheureusement pour nous, c'est pas vraiment bon.
Je recule un peu, moi, avec... En 2003 encore, le Fountain of Wayne avec Stacey's Mom.
Oh,
juste un petit shout-out à ce band-là. Il y a eu d'autres bonnes tunes.
Moi, j'ai longtemps pensé que c'était Bowling for Soup qui avait joué cette chanson-là.
Quelque chose par rapport à Bowling for Soup.
Ok.
C'est en 2004, je peux y passer tout de suite, mais. Bowling for Soup qui sont reconnus beaucoup pour leur chanson 1985 et eux d'ailleurs ont fait un cover de Stacey's Mom en 2011.
Okay.
Et ont aussi fait un
cover. Je pensais plus vieux que ça ce cover là.
Mais il y a aussi que le cover, la chanson de 1985, c'est aussi un cover du band SR71 qui est le band que j'ai parlé
plus tôt.
Scully Doesn't Know, en fait. Non, c'est pas Scully, non, c'est Astra. Qui est Right Now, excuse-moi. Right Now, je mélange souvent les deux bands.
C'est une chanson ou un film, ça, Scully Doesn't Know?
Je m'en viens. pour moi.
Il y a un meme qui passe souvent par rapport à Scully Doesn't Know.
Avec Matt Damon?
Oui,
je m'en viens.
Wow.
Pour venir peut-être 2003, bon, Fountain of Wayne, Stacey's Mom, qui est le vidéoclip qui est très, très. Un gros clin d'œil à un film que j'aime bien qui est Fast Time at Ridgemont High. Ça a vraiment émerveillé notre imaginaire, si je peux dire.
Tu parles du clip de...
Ben, tout, le clip puis la chanson en tant que telle, là.
C'est Six Bob.
Ouais, d'ailleurs, le chanteur est décédé il y a pas si longtemps. Là, comme...
D'après moi, c'est peut-être là qu'a été créée la catégorie sur les sites porno, la catégorie MILF, je sais pas.
Tu sais que MILF, parlant d'American Pie, plutôt, MILF existait déjà, mais a été popularisé par American Pie.
That's Stifler's mom?
Yep.
Dude! I took some MILF!
What the hell is that?
MILF. A mom I'd like to fuck.
Yeah! MILF! MILF!
Parle de MILF Guys.
Le MILF Guy qui est lui, après ça, il était dans Harold and Kumar.
Oui, John Cho.
Ouais,
oui.
Exactement. Mais oui, mais le terme MILF a été popularisé par lui. Grâce à American Pie. Donc, effectivement, ouais, Stacey's mom a dû aider. Pas précurseur, mais...
Et John Cho a fait un film sérieux, le film Searching, où est-ce que sa fille a disparu. Et je me rappelle pas de son origine. Là, je veux pas me tromper. Il me semble qu'il est coréen.
Ouais, de mémoire.
Puis c'était le premier film sérieux qui mettait en vedette un acteur coréen. Fait que le film Searching, je vous le conseille fortement.
Pour terminer 2003, avant qu'on s'excite avec le reste... Yellow Card avec Ocean Avenue. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je trouve que c'est un band que d'autres méritent. Breathing, qui était une excellente tune du même album.
Tu vois, tu n'as même pas le hit encore. Tu fais la même chose qu'avec The Youth.
J'ai dit Ocean Avenue, puis il y a Only One, mais...
Est-ce que tu l'as dit ou tu as juste commencé à Breathing? Tu as dit Ocean Avenue?
Oui, j'ai dit Yellow Card avec Ocean Avenue.
C'est
qui est le même album aussi, mais...
Ouais.
Fait que Ocean Avenue, Breathing, puis Only One, qui, moi, je trouve des excellentes tunes. Mais l'album, ouais. C'est l'album au complet, est bon.
Ouais.
Après, eux, ils sont séparés, ils sont venus. Ryan Keys, le chanteur, a fait comme un projet solo en reprenant ses chansons. J'ai pas trop suivi, mais j'étais content de le voir, qui était à le show hommage à Chester Bennington, là,
ouais.
Organisé. J'ai vu chanter Shadow of the Day.
Ouais.
Donc, je trouvais ça très bien.
Parce qu'il y avait eu de la difficulté, puis les One Hit Wonders, c'est un peu ça aussi, qui ont de la difficulté à répéter leur succès. Et l'album Light and Sound, qui avait sorti après,
ouais.
le single Light and Sound n'était pas mauvais,
non.
Mais l'album en tant que tel avait beaucoup déçu parce que
tandis que
on avait des grosses attentes.
L'album de Rochon avait nous et...
Ah oui, ça, je
vois. Quasiment, là.
Ouais,
c'est pas mon album préféré, mais je trouve que c'est.
Ouais, mais quand tu parles d'un hymne pop-punk, Ocean Avenue, c'est un incontournable.
Eux, ils avaient vraiment trouvé leur son, là, avec le violon, puis tout, là. C'était
un. Je sais pas si c'était la première fois qu'on entendait un violon dans un band
dans
de ce genre-là.
Je pense que oui.
C'était bon. Until the day I die. drôle que tu parles de Avenue parce qu'il y a eu l'album Page Avenue de Story of the Year qui ont le single Until the Day I Die qui est la tune la plus connue de ce groupe-là que j'ai considéré comme un One Hit Wonder parce que Story of the Year c'est pas un groupe qui est super connu. Page Avenue que bizarrement leur album Page Avenue est leur album le plus connu à cause de ce single-là, mais l'album qui a suivi In the Wake of Determination, je trouve que c'est un album qui est beaucoup plus complet que Page Avenue, qui est très inégal parce que la première moitié, toutes les meilleures chansons sont dans la première moitié de l'album et après la deuxième moitié est plus faible.
C'est souvent ça, mais il est bien préféré.
Ouais, In the Wake of Determination, d'un bout à l'autre, c'est vraiment plus équilibré. Ce que j'avais aimé, nous, les bands qu'on aime, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font des shows spéciaux où est-ce qu'ils jouent des albums au complet. Et ce que j'avais aimé quand ils ont joué Page Avenue, je pense que c'était l'an dernier, en janvier 2024, ils avaient joué Page Avenue au complet, mais au lieu de le jouer en ordre, ils avaient éparpillé toutes les chansons dans le playlist. Puis moi, j'étais content parce que, en sachant qu'ils avaient joué l'album au complet, ben la deuxième moitié, sachant qu'elle était plus faible...
Ouais, mais ils ont dû le savoir aussi un peu, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. T'sais.
Mais je trouve ça cool qu'ils aient pensé à ça, c'est un des seuls bands que j'ai vu faire ça.
Mais vite, tu connais Doesn't Know, c'est ça, c'est un film, Matt Damon est dedans, il fait un faux band, puis les gens ont vraiment adoré avec la toune, c'était une vraie toune faite par un band, et ils ont décidé de le sortir en single en même temps, puis après ça, ce band-là a comme continué, mais c'est un vrai band, Nostra, mais Scully Doesn't Know, c'est vraiment comme connu, et oui, les mimes qu'on voit, c'est beaucoup de ce film-là.
Ça fait penser à Idolens
avec Tom Dong qui est dedans. Ok, on le sait.
Non, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est
vrai, mais on l'a coupé ce bout de l'ai dit ça de plein.
Ouais, parce que je l'avais mal décrit. Oui, Tom Dong a un petit rôle dans un magasin de burger où est-ce qu'il dit All right.
J'ai vu ça, c'est là hier en plus. C'est vrai, les chances, oui. J'avais jamais vu ce film-là, puis je l'ai vu
chez. Puis en plus, il avait ses cheveux blonds, puis il est vraiment dur à connaître.
C'est le Dude Range Era, prend.
Ouais, puis il reste deux secondes, mais dans Idolens, il a dit, parce que tu m'avais pensé à ça en disant qu'il y avait un band dans un film, ben il dit, Offspring joue vraiment dans le film, c'est le band qui est invité au bal de l'école, mais Idolens, c'est un film culte, là, c'est très bon.
J'ai jamais vu. Mais moi, je suis rentré en 2005.
Oui, ben 2005, grosse année aussi.
Ohio is for Lovers de Alternates.
Ok.
Gros Benimon.
Je m'étais intéressé à cet album-là, il n'y a pas si longtemps.
Moi aussi, ça fait pas tant longtemps, puis je trouve qu'ils ont un bon répertoire, puis ils ont sorti un album en 2021 qui s'écoutait très bien aussi. Je pourrais pas te nommer une chanson en particulier, mais.
Ça veut pas dire que t'es pas un vrai fan.
Ça veut pas dire que je suis pas un vrai fan. Mais en fait, tu sais, c'est quoi? J'aurais jamais la présomption.
La présomption.
Présomption, merci de dire.
La prétention.
La prétention de dire que. Je suis un fan de ce band-là, mettons. T'sais,
je le connais pas tant que ça. Mais moi, j'avais écouté l'album de Silence in Black and White, qui a la tune Ohio is for Lovers.
Ouais.
Sur cet album-là, moi, j'aime surtout Dissolve and Decay, qui est une excellente chanson de Arden Heights que je conseille. Mais l'album en tant que tel, il commence avec Live on Standby. C'est un très bon album. Mais je me suis pas intéressé à ce qu'ils ont fait.
Moi non plus. Mais l'album plus récent, oui. Mais okay. Là, comme je dis, j'ai pas de titre en tête à proposer, j'en mettrai peut-être un dans la playlist. Là. Moi, je suis rendu à 2006.
Ben, moi, je vais rester avec 2005 parce que je tenais à parler de. I come in with the habits you people ever heard of. Closing a goddamn door, no. It's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. Panic at the Disco.
Oui,
qui avait sorti.
C'est sûr, c'est un One Hit Wonder band.
Ils ont tellement une histoire particulière parce que ce band-là, un jour, ils ont décidé que c'était plus vraiment un band, puis c'était juste le frontman qui allait gérer la musique.
Ben, ça a tout le temps été un peu ça.
Ben, on le reconnaissait beaucoup, oui, il était souvent mis en avant-plan, mais c'est vraiment à partir de 2013 que là, ils ont vraiment. Que ça a été officiel. D'où la joke quand on a dit que le band se séparait. Il y avait la joke de lui devant un miroir qui dit le band se sépare, mais c'est lui le band. Bref, deux gros hits. Si jamais c'est pas considéré comme un One Hit Wonder, je pense que la chanson la plus connue, c'est I Write Sin Not Tragedies, qui était sur leur premier album
C'est excellent, c'est
Fever You A Fever You Can Sweat Out, qui est un hymne pop-punk qui est très connu.
Ouais.
Donc, je suis allé me pencher un peu à ce qu'ils ont fait après. Ils avaient sorti l'album en 2008, Pretty Odd, qui avait vraiment été une surprise pour tous les fans. Le gros hit de cet album-là, qui est Nine in the Afternoon. Mais le reste de l'album est très, très particulier. Beaucoup de musique, d'ambiance, pas vraiment de... On n'a pas l'ambiance d'un band comme on avait dans le premier album.
Non, parce que le premier album, ça, eux ont été faire grâce à Fall Out Boy. Puis le premier album, c'est vraiment dans les veines de Fall Out Boy. Là. C'est du...
C'est quoi le lien entre Panic at the Disco et Fall Out Boy?
C'est Fall Out Boy qui a mis en scène... Là, je connais pas l'histoire à 100%, mais c'est grâce à Fall Out Boy que ce band-là existe ou du moins a été propulsé. Ils ont pas dû faire leur première partie ou quelque chose comme ça. Là.
Okay. Ils ont un rôle important.
C'est des bands qui étaient amis pendant un bout, mais pas encore. Mais c'est un band qui était très Fall Out Boy-esque au début. Avec des titres super longs d'albums, là, de chansons. Là. Mm-hmm. C'est un peu comme Fall Out Boy, c'est un classique. Là.
Mais c'est drôle que tu fasses ce lien avec Fall Out Boy parce que oui, dans le premier album, la longueur des titres nous rappelle beaucoup les chansons de Fall Out Boy. Si comme beaucoup de gens, c'est une des seules chansons que vous connaissez de Panic at the Disco, je vous conseille beaucoup l'album de 2011 qui s'appelle Vices and Virtues. Où est-ce qu'ils retournent beaucoup à un son qui ressemblait à leur premier album, donc si vous avez aimé Writing Not Tragedies. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'album de 2013, puis je ne vais pas me tromper pour ne pas inverser des mots, c'est Too Weird to Live, Too Rare to Die, qui a été le dernier album en tant que band. Et cet album-là, je trouve qu'ils ont trouvé un juste milieu entre la musique pop-punk et un espèce de type un peu plus burlesque, fanfare qu'on retrouve dans les albums où est-ce qu'ils étaient seuls à faire la musique.
Ouais.
Ils ont comme essayé de créer, puis moi, c'est un peu le combat que j'ai quand les artistes commencent à vouloir explorer. J'ai rien contre les artistes qui veulent explorer, mais des fois, je trouve qu'ils le font au détriment du catchiness.
Ouais.
Et je trouvais que les albums de 2011 et 2013, il y avait fait un parfait mélange entre le catchiness et l'exploration qu'ils voulaient faire. Donc, la chanson qui m'a beaucoup marqué, c'est Casual Affair, qui se retrouve sur l'album de 2013, qui est venu me chercher beaucoup, que je trouvais que ça mélangeait ambiance et catchiness. Donc, ce seraient les deux albums que je vous conseille si vous avez aimé l'album de 2005.
Moi, je suis rentré en 2006.
Mm-hmm.
Et là, ça, c'est mon moment. Dans les One Hit Wonder,
oui,
il y avait. When you come back, I won't be here and you can sing it. Go, I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. Where Do You Go? The Fort Minor.
Okay.
Qui est le side project de Mike Shinoda. Donc, pendant un break entre Linkin Park, de Linkin Park, là, entre leur album, justement, ben là, il venait de faire Collision Course, ça faisait pas longtemps avec Jay-Z, mais c'est entre officiellement Meteora puis Minute to Midnight, ce qui est sorti en 2007. Il y a Fort Minor, qui est le projet beaucoup plus rap de Mike, donc beaucoup plus rap tout seul, avec beaucoup d'artistes. Et la chanson Where Do You Go, qui est considérée comme un One Hit Wonder, premièrement, j'aimerais dire quelque chose, il y a d'autres. Très bonne tune, cet album-là au complet s'écoute comme du bonbon, synonyme de rap.
Ben moi, c'était un peu ça mon idée quand on a parlé de l'épisode, de montrer qu'il y avait d'autres choses en plus du. Fait que ça me rejoint comme.
Remember the Name, qui était une excellente chanson, mais je pourrais en dire. Je pourrais en nommer plein. Kenji, Cigarettes, whatever. Je pourrais dire même l'album au complet parce que je l'adore. Mais j'aimerais dire quelque chose d'intéressant par rapport à ça. La chanson Where Do You Go avait une chanteuse, OK? Qui est featuring, le nom, si on en regarde officiellement sur les albums, etc., c'est Holly Brooks. Holly Brooks, c'est quelqu'un qu'on connaît énormément. Non, c'est pas Céline Dion, le pauvre. Mais en fait, c'est le nom, avant qu'elle change son nom d'artiste, de Skylar Grey. Skylar Grey, qui est une chanteuse qui fait beaucoup de chansons.
Ça me dit quelque chose.
C'est elle qui chante dans I Need a Doctor de Eminem et Dr. Dre. Vraiment, elle a fait beaucoup de projets avec Eminem. Elle a eu, comme je disais, un succès là, de son côté. D'ailleurs, en fait, Skylar Grey, c'est une auteure-interprète. C'est elle qui a écrit I Love the Way You Lie de Eminem.
Oh,
c'est pas elle qui chante avec lui.
Okay.
Donc, elle a une version, d'ailleurs, toute seule sur un de ses albums.
Qui avait marqué un grand retour d'Eminem.
D'Eminem. Hey, man, Recovery. Là.
Et l'album qui avait détrôné Recovery au premier rang sur, je pense, c'est Billboard qu'on appelle.
Ouais.
C'était Nightmare d'Adam
Jones. Je savais pas quoi.
Ouais.
Donc, anyway, Skylar Grey qui a été découvert. J'aime croire qu'elle a été en fait découverte et mise sur la map par Mike Shinoda. Donc, je trouve ça super intéressant. Moi, je suis un gros fan.
Moi, ce que je trouve fucked up, c'est que tu as réussi à plugger Céline Dion et Eminem dans le même segment. Mentionner des... Je pensais jamais qu'on mettrait ces deux noms-là dans un même
S'il vous plaît, segment. Envoyez-nous vos meilleurs remixes de Eminem et Céline Dion ensemble, s'il vous plaît.
Hey, ce serait toute une collab.
Ça doit exister. Non, mais les remixes doivent exister, là.
Les mashups.
Donc, encore en 2006, à moins que tu veux me détrôner. Behind! AFI, le band A Fire Inside, qui a sorti Miss Murder. Et quand on parlait, c'est considéré comme un one and wonder. C'est considéré comme un one and wonder. C'est vraiment leur plus grosse tune. C'est la tune qui joue à la radio. Ils n'ont pas beaucoup d'autres tunes qui ont joué à la radio. Puis c'est un peu ça, un one and wonder aussi. C'est ce qui joue à la radio. Ce qui fait le top. Puis quand on parlait, moi, ce qui...
Silver and Cold, en 2003, a joué à la radio aussi.
À peine. Moi, honnêtement...
À peine. Et moi, c'est la chanson qui les a fait connaître.
Moi, c'est
AFI, One Hit Wonder, zéro d'accord avec ça. AFI, c'est un de mes bands préférés. J'en aurais parlé à 100 000 à l'heure si je les aurais considérés comme un One Hit Wonder.
En même temps, on va faire un épisode sur eux. Mais moi, tu vois, moi, j'ai découvert en 2006 avec cette chanson-là, qui était, je pense, un Guitar Hero. Puis d'ailleurs, aussi, j'ai fait le saut, en fait. Moi, je pensais que c'était un band quand même récent, là, quand c'est sorti. Lance-moi pas de rush.
Ben, un peu comme The Offspring. Tu sais, eux, là, ils ont commencé début 90. Et...
Mais leur troisième album, c'est Smash qu'ils ont mis aussi.
Exact. Mais moi, j'ai longtemps pensé que Offspring avait commencé comme Americana. Mais comme tu dis, l'album December Underground, c'est leur sixième album, ouais. Si je me trompe pas.
Puis c'est ça, moi, dans le fond, nous, on a eu la chance de les voir live là, au show de. T'étais-tu là? Carnivore Tour? Non, t'étais pas là.
Ah, quand on a vu Linkin Park, 30 Seconds to Mars, puis FR.
Quel
spectacle. Il faisait beau en plus.
Ah oui, vraiment.
Le bal Jean Drapeau, c'est. Si vous êtes là.
Si
vous êtes là, écoutez, on espère. Si vous étiez à ce spectacle-là.
C'est un des meilleurs shows de Linkin Park que j'ai vu ever, là, honnêtement.
Ouais.
Puis, mais FI est excellent aussi. Et d'ailleurs, pour ça, en écoutant.
Quel line-up!
Ouais, c'est méchant.
Ouais.
En écoutant le podcast d'Avenged Sevenfold, le Trax,
qu'on
a parlé dans l'épisode d'Avenged, ils ont parlé du fait que FI les avait beaucoup inspirés.
Oui.
Puis j'ai fait comme. Puis là, c'est comme, non, eux, en growing up, c'était comme leur band qui coûtait beaucoup, puis c'était gros dans leur coin, parce qu'ils viennent du moins de coin.
Mais quand ils avaient commencé, Avenge, ils étaient beaucoup dans la Californie, en Californie, je veux dire, le skate était très à la mode là-bas, et les chansons qu'ils jouaient beaucoup, c'était du punk un peu. Puis là, je suis en train, il me semble que le Descendants, ça l'a inspiré Blink aussi.
Ouais.
Et tout ce style de punk-là, AFI avait commencé, tu sais, là, ils sont très dark, mais ils avaient commencé dans ce style de musique-là.
Ouais.
Exactement. Et d'ailleurs, The Rev, dans le booklet de Waking the Fallen, porte un t-shirt de AFI.
Ouais.
Puis,
c'est vrai.
Puis oui, les thèmes. Puis quand on parle de The Rev, elle aimait beaucoup les thèmes morbides. AFI, avec l'album The Art of Drowning en 99, ils ont un peu lancé le punk horreur. Donc, j'ai pas de la misère à croire que The Rev. Avec ses intérêts pour les sujets morbides et son band Avenged Sevenfold, ont été inspirés par AFI.
T'as fait du show en 2006? Moi, j'ai des petites affaires vite, mais.
Ben, moi, c'est sûr qu'en 2006, je voulais y aller avec une chanson, puis c'est grâce à toi que j'ai. Ouais, puis je l'ai vu, puis là, je fais semblant parce que t'aimes pas ça que je lis tes notes, mais ils sont là aussi. Matchbook Romance avec le gros hit Monsters.
Ouais.
T'avais lancé ça dans notre discussion parce qu'on a une discussion de groupe, on s'en va beaucoup de choses. Puis c'est important de répondre à Julianne parce que sinon il aime pas ça. Mais c'est grâce à toi quand t'avais.
Quand t'avais
envoyé cette tune-là. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson-là? Ouais. Hey, c'était bon! La tune Monsters, c'était bon! Fait que là, je me suis questionné, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre?
T'as acheté leur album.
Ben là, c'est là, moi j'ai dit. Fait que là, moi je me suis lancé pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Ils ont seulement deux albums. Ça, c'est leur deuxième album qui est leur dernier, mais il avait sorti un album en 2003 qui s'appelle Stories and Alibis, qui est excellent. Si vous êtes des fans de The Used, ça va rejoindre beaucoup le son à The Used et aussi le son de Taking Back Sunday. Et MacBook Romance, qui m'a beaucoup impressionné, d'outre leur premier album de 2003. En 2006, ils ont changé beaucoup de son. Un album très, 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 très sombre qui rentre dans mes goûts à moi. Si vous avez la chance, je tiens à ce qu'on la mette dans la playlist, la tune Portrait. Et là, je vous dis deux genres de musique. C'est comme si Muse rencontrait Radiohead.
Parce que moi, à part cette tune-là, j'ai jamais vraiment écouté rien. Puis j'avais hâte, vu que t'as acheté des albums, j'avais hâte de m'y mettre un peu plus ou que tu me dises quoi écouter.
Parce que Muse, l'album Apocalypse Please, je pense le nom de cette chanson-là qui est sur l'album qui est le plus connu de Muse en 2003. Muse, au début, je trouvais qu'il avait l'air de se lamenter en chantant dans la toune, le gros hit Time is Running Out. Je trouvais qu'il se lamentait. Quand je parlais de Ubastang tantôt, qu'il avait l'air de chialer, Muse, il y avait un aspect de lamentation qui me rejoignait moins. Mais quand tu écoutes la tune Portrait de Matchbook Romance, c'est vraiment, ils ont réussi à trouver le juste milieu pour que ce soit bon et émotivement très prenant. C'est une tune que je conseille à tout le monde.
Dans la même veine, le Ben Red Jumpsuit Apparatus.
Oh my god!
Le Face Down. C'est un peu là au complet, moi je le trouve excellent.
Ouais. In Fate's End est une excellente chanson qui ouvre l'album.
Oui.
Que, dans la chanson, on dirait que le gars vomit à un moment donné.
Oui, oui, oui. Ben, c'est un intro. C'est un intro.
Non, c'est pas un intro, c'est dans la toune. Quand que la toune a drop, puis là, il recommence. Mais on dirait. La première fois, j'étais sûr qu'il vomissait.
J'ai prêté l'oreille.
Ah non, c'est.
Je me suis trompé avec. Mais.
Mais oui. Mais je me suis jamais. Mais j'ai pas osé le mettre parce que j'ai vraiment. Ça, c'est vrai que j'ai arrêté de les suivre après.
Mais moi, en plus, ils ont pas grand chose après de mémoire. Mais moi, en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est. J'ai frôlé un peu Kaza puis la moyenne. Mais moi, c'est souvent des tounes qui tombaient. Quand je voulais télécharger d'autres affaires, c'était ça qui tombait à la place. Puis j'étais comme en crise, puis j'avais ça, cette bande-là, mais vraiment, à un moment donné, j'ai appris à les jabber.
Comment détruire l'ordinateur familial avec Kaza et LimeWire?
Oh ouais, c'était pire que la porn, là.
Mon père commençait en informatique, c'était ouvert à avoir un ordi à la maison. Pour lui.
moi, je suis rendu en 2007.
Je te laisse aller. I'm sorry I'm bad, I'm sorry I'm Bill, I'm sorry about all the things I said to you, and I know.
Le band Buck Cherry. D'ailleurs, Buck Cherry, j'ai toujours cru que ça venait de changer le nom de Chuck Berry, un guitariste connu, là. Un musicien connu, en fait. Mais non, ça vient de leur ami Drag Queen,
okay.
Qui s'appelait Buck Cherry. Bon, anyway, sont vraiment connus pour la tune Sorry, mais moi, je les ai vraiment connus pour Crazy Bitch.
Okay.
Qui est vraiment, moi, je trouve, leur meilleur tune. Ça veut dire que continuer un peu à faire de la musique avec un succès modeste, là, correct, je pense, là, honnêtement. Mais deux tunes que je tenais à parler. Moi, je suis rendu en 2008.
Ben moi, honnêtement, les bands que je voulais parler, c'est fait, c'est dit. Ah, fait que là, moi, je suis à ton écoute parce que peut-être qu'il y a des bands que j'ai pas pensé mettre.
Ben,
sont des vrais Hit Wonder, vu que
visiblement,
AFI est bon. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars.
La même année, il y avait Flowbots pis Handlebar. Honnêtement, ça là...
Oh oui, c'est bon!
Ça, c'est la tune que je te parlais tantôt. Ouais. Ça là, c'est excellent. J'aimerais vraiment, à un moment donné, m'acheter l'album. Pis je peux l'écouter maintenant avec Apple Music, mais j'aimerais vraiment en plus l'écouter parce qu'il était vraiment, vraiment talentueux. Mais cette tune-là est insane, là. Puis, honnêtement, je suis genre le band, je pense qu'il aurait eu un gros succès, mais ben, peut-être que leur album d'Achille, en fait. Je sais pas.
Il me semble que le Heartwork était cool.
Ouais, non, il était très cool. Puis les paroles étaient malades. Moi, ça m'a toujours. Je l'écoute encore vraiment, cette chanson-là, souvent. Là. Moi, je termine avec 2009. That party last night was awfully crazy. I wish we taped it. Asher Roth, qui avait sorti de la tune, qui était un genre de party anthem, qui était I Love College. Je sais pas si c'est sûr que ça va dire quelque chose, mais ce qui est particulier de cette tune-là, c'est que moi, la version que tout le monde connaît de notre génération, c'est la version qui s'appelait Weezer Say It and So. Et quand il a voulu la commercialiser, cette tune-là, il n'y a pas eu le OK de River Commons, le chanteur de Weezer. Donc, il a dû refaire un beat, puis elle est vraiment, vraiment, vraiment moins bonne.
Okay.
Genre, la version originale est cool. Mais ça fait juste que... Mais elle a eu un succès quand même, mais c'est un one hit wonder parce que ce gars-là, on n'aurait plus jamais entendu parler.
C'est drôle que tu parles de Weezer parce qu'en parlant de Jimmy Eat World, en le mettant dans les one hit wonder, j'aurais pensé peut-être que Weezer, si on considère Jimmy Eat World,
s'il
est sur le NIST...
Weezer ont énormément de singles.
Je sais pas en quelle année ils ont commencé. Moi, je sais que je les ai connus avec Beverly Hills.
Ouais, ça avait joué beaucoup à radio.
Qui avait Hashpipe. Sur Big Shiny Tune 6.
Ouais, mais Parts and Bean ont joué beaucoup à la radio aussi. Pis,
okay.
Puis Sweater. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que The Who, c'est beaucoup moins radio-friendly.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça un peu, parce que les One Hit Wonder, c'est un peu ça, c'est le succès qu'ils vont chercher. Puis nous, il y a des bands, mettons Avenged Sevenfold,
right.
Il y a juste Seize the Day qui joue à la radio.
Il y a eu Bad Country, je pense qu'il a joué
oui,
à
ben, 999. Mais je veux dire, Seize the Day, c'est la tourne la plus populaire qu'ils ont parce que c'est ce qui est la plus facile à accéder, ouais. à jouer à la radio encore en continu.
Mm-hmm.
Mais pourtant, c'est pas un conseiller, un band de One Hit Wonder. Mm-hmm. C'est juste que.
Ils ont eu Amos Tizzy, je me rappelle, qui avait joué à la radio à 999 de Buzz, que j'aimais beaucoup écouter à l'époque. Là, j'écoute plus beaucoup la radio, mais vu qu'on avait dit que les. Ben, vu que sur l'album blanc, les chansons d'Aven sont moins longues.
C'est plus facile ouais, aussi, exactement. Effectivement. Mm. Mais des fois, quand tu vas voir Anne Kenry, peut-être que tu entends des chansons.
Ah oui, ça, c'est. Écoute, quand on sort, c'est.
Anne Kenry, c'est là où on entend les chansons. Tu sais, il écoute plus la radio, donc je me dis qu'il dort des événements comme Anne Kenry.
La Kenry, c'est le seul moment que je vais écouter la radio.
Donc, moi, ça complète un peu.
Oui, il y avait tu parlais de bandes que tu voulais mentionner. Ouais. Moi, je m'étais questionné sur The All-American Rejects, mais ouais, en parlant aussi. Aux gens. Ben, ben, j'ai fait un petit sondage maison aux gens qui m'entouraient parce que j'étais pas sûr. Mais là, je me suis rendu compte que la tune Dirty Little Secret était presque aussi connue que Move Along.
Puis Give You Hell aussi.
C'est à celle-là que j'ai pensé aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis là-dedans.
Puis Let's Unite aussi qui a joué.
Oui, mais c'est vraiment un band à connaître. Malgré qu'ils ont pas une grande discographie, mais The All-American Rejects.
Toi, tu l'aimes donc.
Après l'album de 2008, ils ont un seul autre album qui est sorti en 2012 qui est très bon, Kids in the Street. Qui est très très bon aussi.
Mais moi ça complète.
Puis ben ce que j'aime de cet épisode là c'est que justement ça va aller chercher puis j'espère qu'il va y avoir beaucoup de réactions parce que j'aimerais ça qu'on nous dise que ben un peu comme on a fait
quand on a fait
Jimmy Twain et NFL que vous me dites non je suis pas d'accord que c'est un One Order parce que ils ont sorti beaucoup plus de matériel parce que nous c'est un peu ça, il y a beaucoup de balles que les gens ont arrêté de suivre mais nous on a continué à suivre. Puis qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas eu de perte au niveau de la du fait qu'ils sont connus, qu'ils ont continué à faire du matériel. Fait qu'on vous invite à nous contredire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la sélection.
Ah, certainement. Puis, tu sais, là, j'ai dit, on s'est vraiment concentré début 2000 jusqu'à 2009, dans le fond, là. Bon, on va peut-être.
Qui est la période qu'on parle beaucoup, ouais. là. Tu sais, quand on avait parlé, quand on avait fait notre épisode 0, on parlait que c'est les bands qu'on allait le plus parler. Mais des One Hit Wonder,
c'est
sûr.
On s'arrête pas parce qu'on va reprendre d'autres bands. À un moment donné, c'est sûr qu'on va aller dans les années 90 et tout. Mais là, puis peut-être s'il y a de l'abouement pour cet épisode-là, on ira peut-être plus en profondeur. Parce que, bon, j'ai nommé des titres, mais. J'aurais de faire plus de recherches, j'avais juste envie de parler de musique aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment juste ça.
Ah, puis, non, puis c'est très bon. Puis quand on vous encourage à réagir, c'est parce que des fois, ça nous inspire beaucoup pour des idées d'épisodes pour l'année.
Donc, vous, dans les années donc 2000 à 2009, avez-vous des bands qu'on n'a pas mentionnés que vous trouvez qui méritent d'être. Là, on est allé dans le genre un peu plus rock, mais je suis ouvert à entendre d'autres suggestions que un vous trouvez peut-être qui aurait dû être nommé ou que tu sais c'est sûr j'ai pas nommé exemple de Verve avec Bittersweet Symphony là, à un moment donné je veux dire c'est on le sait mais d'autres trucs ou des bands qui sont considérés selon vous des One Hit Wonder mais qu'ils ne sont pas on veut vous entendre donc dans les commentaires sur YouTube pour l'instant on travaille éventuellement pour être vraiment écoutable en audio seulement donc un vrai format podcast
comme ça on va arrêter de se demander quel chandail mettre ouais.
Non, on peut se continuer à se filmer, on verra, mais on travaille pour être en audio éventuellement aussi, ça reste à venir. Et en fait, on offre une page Instagram maintenant,
oui.
Donc vous allez pouvoir nous suivre, on va mettre le handle dans la description. Je pense que c'était, parce que le titre c'était pas un vrai fan, mais je pense que le ad c'est pas fan ou c'est...
Pas fan podcast.
Pas fan podcast, ouais. Donc vous allez pouvoir nous suivre aussi et alimenter les discussions là aussi.
Je suis content que tu rappelles le nom parce que vous avez écouté T'es pas un vrai fan et quand on vous invite à commenter, ben venez nous dire qu'on n'est pas des vrais fans de musique parce qu'on aurait peut-être oublié des choses. Fait qu'on a bien hâte de vous lire.
Merci beaucoup.
Ciao. Mais c'est un peu ça les One Hit Wonder. Tu dis le nom puis ça nous sonne quelque chose.
Ouais.
Bienvenue à T'es pas un vrai fan. JP toujours en compte.
Excuse-moi, non, c'est parce que je me suis tiré à la bouche quand t'as commencé. Tu on prend la prise, c'est toi tu fais bienvenue. Je suis comme
T'es pas un vrai fan est une idée originale de Julian et JP. Pour nous suivre et être au courant de tout, venez visiter la page Instagram PasFan Podcast.